Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à toutes et à tous. Je vous donne les titres de l'actualité. Je vous ai déjà parlé il y a quelques mois du mouvement La Communion Notre-Dame de l'Alliance, un mouvement qui s'intéresse aux personnes divorcées ou séparées qui souhaitent rester fidèles à leur mariage. Fondée en 1983, La Communion Notre-Dame de l'Alliance propose rencontres, récollections, retraites annuelles, temps de prière et d'accompagnement. Je vous lirai donc l'entretien que L'Homme Nouveau a fait avec les modérateurs Emmanuel Rondeau et Marie Lagente, donc L'Homme Nouveau numéro 1741. Je vous parlerai ensuite de l'importance de la présence à soi et aux autres, avec les conseils du moine bénédictin Ansel Grün. À l'heure où la technologie remplace l'homme, qu'en est-il du lien social, affectif et spirituel ? Je poursuivrai ensuite avec la violence ou la relation impossible avec Martin Stephens, donc dans le magazine Prier numéro 434. Nous allons redéfinir avec lui le terme et explorer les pistes pour affronter et surtout résoudre les violences dans nos vies. En culture chrétienne, je vous parlerai très brièvement d'un film qui va être distribué par Sage Distribution, donc Infidèle, Hubert de Torcy, que vous aurez tout à l'heure, vous en dira plus. Ensuite, je vous présenterai le livre d'Ansel Grün, Petite pharmacie de la consolation, paru aux éditions Salvator, et je vous donnerai 2-3 annonces au sujet du congrès mission qui arrive très prochainement. Commençons cette revue de presse du mardi 7 septembre donc avec le mouvement intitulé « Communion Notre-Dame de l'Alliance ». Je vais donc vous lire maintenant l'entretien d'Emmanuel Rondeau et Marie Lagente, donc entretien paru dans L'Homme Nouveau numéro 1741. Vous êtes modérateur de la Communion Notre-Dame de l'Alliance. Votre mission est peu commune. Notre mouvement, en effet, est unique dans son charisme d'accompagnement des personnes seules, souhaitant garder leur fidélité au sacrement du mariage, malgré une séparation ou un divorce. Nous avons cherché au plan international et nous n'avons trouvé que peu d'organisations du même type. Une en Italie et une famille Solitude Myriam au Québec. Il y a une vraie nécessité. 50% des personnes séparées ou divorcées restent seules. Il faut cependant mentionner pour la France un autre mouvement qui mérite, qui vaut la peine d'être connu, Miséricorde et Vérité. Miséricorde et Vérité s'occupe des gens dans une nouvelle union après une séparation ou un divorce, mais qui, malgré l'impossibilité d'accéder au sacrement, souhaitent rester en communion avec l'Église. Cette association a été lancée à peu près en même temps que la nôtre. Il y a une évolution dans les mouvements diocésains, suscitée par la prise de conscience d'un nombre non négligeable de personnes divorcées ou séparées qui n'ont pas contracté de nouvelle union. Un effort est fait pour les écouter et les orienter vers un groupe qui leur conviendrait. Pourquoi des personnes qui ont connu la souffrance de la séparation cherchent-elles à entrer en relation avec des individus qui ont connu la même souffrance ? Comment évitez-vous l'écueil du repli communautaire sur la souffrance en le dépassant pour trouver l'ouverture spirituelle ? Nous considérons que nous avons deux missions, donc au sein de Notre-Dame de l'Alliance. D'abord, l'accueil d'une souffrance qui est peu entendue et surtout peu comprise par le monde. Après une séparation, notre société se tourne immédiatement vers l'éventualité d'une nouvelle union. Les fidèles catholiques qui approfondissent la question de la fidélité après la séparation sont confrontés à la souffrance personnelle et au regard du monde sur leur situation. Notre accueil est ainsi un service. Nous aimons à nous identifier à cet hôpital de campagne dont parle le pape. À cette dimension s'ajoute la mission de témoignage. Nous voulons témoigner de l'espérance qui naît de cette situation. En vivant dans cette fidélité, cette fragilité et ce mystère de la fidélité au cœur de la séparation, nous pouvons, mine de rien, autour de la thématique, entamer un chemin de pardon qui est un long chemin et un chemin de toute une vie. J'ajouterai que ceux qui se tournent vers la communion le font parce que leur parcours n'est pas facile et qu'ils ont besoin du soutien de leurs frères et sœurs. Nous trouvons un appui spirituel très important dans l'approfondissement de la spiritualité du sacrement de mariage. C'est un point qui réjouit ceux qui nous rejoignent. Nous entendons le reproche qui nous est fait de revenir trop souvent sur la séparation, mais comme l'a dit un frère, peut-on parler de résurrection sans aborder la passion ? Plusieurs se plaignent du manque de soutien, voire des incitations de leur entourage à refaire leur vie. Quelle attitude adopter face à une personne séparée ou divorcée ? La pression sociale est très forte. Le monde veut une norme, celle du remariage. Nous avons des témoignages qui vont dans le sens de ce que vous mentionnez. Des membres nous font part de la douleur ressentie lorsque des catholiques croient faire du bien en leur proposant une nouvelle union. Il y a là une méconnaissance et un manque de respect de la personne. Les personnes séparées ou divorcées attendent simplement le respect de leur situation et de l'écoute. Ces conseils se veulent une solution à la souffrance de l'autre et certains pensent qu'une nouvelle relation pourrait être une solution. Cette réaction est très égocentrée puisqu'elle correspond à la peur de la souffrance. Le respect du cheminement de la personne est primordial. Éventuellement, celui qui veut aider peut donner des renseignements sur les différents mouvements d'accompagnement qui existent. Alors, comment s'est déroulée la retraite annuelle au sein de Notre-Dame de l'Alliance ? Elle s'est tenue, heureusement, juste avant l'obligation du pass sanitaire, la semaine du 14 juillet dans le sanctuaire de Pontmain. Nous étions 170. L'été dernier, comme cette année, nous avons eu cette chance de pouvoir nous réunir, un moment de paix attendu pendant ce temps difficile et éprouvant. En conclusion, nous voudrions insister sur le fait que nous sommes au service de l'Église avec la volonté de rejoindre les personnes divorcées ou séparées qui désirent vivre dans la fidélité. Nous avons changé notre logo. Avant, nous étions SDF, séparés, divorcés, fidèles. Désormais, nous sommes MSF, mariés, séparés, fidèles. Ce changement illustre mieux notre position de serviteur. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous ai lu l'entretien que le magazine L'Homme Nouveau a effectué avec les modérateurs de la Communion Notre-Dame de l'Alliance, à savoir Emmanuel Rondeau et Marie Lagente. Donc un entretien que vous pourrez retrouver dans L'Homme Nouveau, numéro 1741. Je continue avec la présence, selon le moine bénédictin Anselgrün, que vous connaissez sans doute pour la plupart. Alors, Anselgrün, dans le magazine Prier numéro 434, a fait un cadeau très intéressant à ses lecteurs et que je souhaite vous faire aussi à vous, chers auditeurs, sur la présence, donc un article intitulé « La présence à soi et aux autres ». Voici ce que nous dit Anselgrün. « Le manque de lien social est la maladie de notre siècle », constatent des psychologues. Beaucoup de personnes, surtout dans les jeunes générations, semble incapable de construire une relation durable et saine avec quelqu'un d'autre, Dieu ou elle-même. Cette absence de lien véritable est renforcée par la place prépondérante que prend le virtuel dans nos vies. Alors que dans ma relation au monde réel, je reconnais que le monde est limité et fini. Dans le monde virtuel, je pense en particulier aux jeux vidéo, je crée mon propre monde. Dans ma relation concrète aux autres êtres humains, je fais l'expérience des limites de l'autre et des miennes. Et je fais par là constamment l'expérience de ma finitude. Dans le monde virtuel, au contraire, ces limites auxquelles nous nous confrontons disparaissent. Les conséquences négatives de cette dégradation du lien social sont avant tout psychologiques, car elles conduisent à un comportement dénué de toute empathie, de toute conscience des besoins de l'autre et de ce qui est bon pour lui. Parlons de l'acédie 2.0. Il en va de même pour notre relation à nous-mêmes. Lorsque je suis coupée de moi-même, j'ai besoin de beaucoup de stimulation extérieure pour ressentir quoi que ce soit. Je m'agite et me saoule d'occupation, ou bien je fuis dans l'alcool, la drogue, pour me ressentir de nouveau. Et si la relation que j'entretiens avec moi-même est mauvaise, je suis incapable de vivre seule et je passe mon temps à me fuir. Les pères du désert au IVe siècle appelèrent cet état d'absence de relation à soi « acédie ». C'est un état d'apathie et de lassitude, de dégoût et d'indifférence. En vérité, c'est une incapacité à être dans le moment présent. Je n'ai pas envie de travailler car c'est trop fatigant, ni de prier car cela m'ennuie. Je n'ai plus envie de rien faire, je ne peux plus me supporter et passe mon temps à me fuir. Je vois un autre danger lié au monde virtuel. Le psychothérapeute Rainer Funk dit que le monde virtuel nous transforme en hommes sans limite. L'homme sans limite veut créer lui-même sa propre réalité et se créer lui-même. Il voudrait s'affranchir de toute norme, de toute limitation, de toute obligation. Il cherche même à s'affranchir de ses propres sentiments, en donnant à voir pour éviter de s'y confronter des émotions différentes de celles qu'il ressent véritablement. C'est un peu angoissant. Il se crée des mondes virtuels dans lesquels il peut ressentir des émotions qui n'ont pourtant rien à voir avec la façon dont il se sent véritablement au fond de lui. Il réagit souvent avec ennui et apathie lorsqu'il est obligé d'en sortir. Cet homme peut également vite devenir dépendant du regard des autres internautes et de leurs interactions, ainsi que du tourbillon des mondes virtuels, des diktats de la société. L'absence de lien met aussi en danger notre vie spirituelle. Nous ne ressentons plus la présence de Dieu et en perdons ainsi le goût. Nous ressentons un vide lorsque nous prions. Les mots de la Bible ne nous touchent plus. Le monde virtuel et sa surabondance d'images nous rendent incapables d'accueillir en nous celle des Écritures. Les mises en scène extrêmes nous empêchent de nous concentrer sur la simplicité d'un office. L'homme devient ainsi inapte à la liturgie. Nous prions et allons peut-être encore à la messe, mais notre cœur reste vide. Que faire pour se libérer de ce piège? Tout d'abord, conserver une saine distance par rapport aux médias numériques. Nous ne pouvons pas ignorer le monde virtuel et ses smartphones, mais nous avons besoin d'un rapport sain à ces derniers. Cela veut dire tout simplement limiter leur usage. Beaucoup de jeunes gens paniquent à l'idée de perdre le leur, moins en raison de la disparition de toutes leurs données qu'à l'idée qu'ils devraient s'occuper seuls. Il ne s'agit pas de diaboliser la technique, mais de trouver une certaine forme d'ascèse. Elle devient aujourd'hui la condition d'une liberté intérieure retrouvée. Et pour terminer cet article, Ansel Grum nous parle de la Stabilitas de Saint Benoît. Les moines formulent cette recommandation contre la sédie. Reste dans ta cellule. Ne t'efforce pas de faire quoi que ce soit de religieux ou de pieux. Mais sois attentif à ce que tu es et ce que tu ressens. Reste assis dans ta cellule. Elle t'apprendra tout ce que tu as besoin d'apprendre. Blaise Pascal connaissait ce remède. Il pensait d'ailleurs que le problème de l'homme moderne était de ne pouvoir rester assis seul dans sa chambre. Aujourd'hui, quand nous sommes seuls, il faut absolument que nous cherchions à nous occuper. La suractivité est glorifiée. Il est suspect de ne rien faire. Saint Benoît exigeait au contraire de ses moines la stabilitas, attitude qui consiste à rester présent à soi-même lorsque notre chaos intérieur nous pousse à nous fuir nous-mêmes. Nous ne pouvons l'atteindre que si nous nous abstenons de juger les pensées et les émotions qui montent en nous. Elles ont toutes le droit d'être là. Nous avons droit d'être submergés de pensées et d'émotions. Nous ne sommes responsables que de la façon dont nous y réagissons. Si je suis capable de ne pas fuir devant moi-même lorsqu'elle se présente, alors j'accéderai à une plus grande connaissance de moi, de mon vide intérieur et des abîmes de mon âme. Cela peut faire peur, mais je sais que Dieu m'aime tel que je suis inconditionnellement. Et c'est cette certitude qui me permet de me supporter, de me regarder avec mes failles et mes défauts, et ainsi d'entrer en relation. C'était l'article du moine Ansel Grün, paru dans le magazine Prier numéro 434, article intitulé « Présent à soi et aux autres ». Toujours dans le magazine Prier, nous allons continuer à explorer un petit peu d'autres termes et d'autres comportements avec Martin Stephens, donc notamment sur la violence. Donc vous savez que la violence a quand même un petit peu la part belle aujourd'hui, quels que soient les degrés, les situations et les événements que nous traversons. Voici les conseils et les explications de Martin Stephens donc sur la violence ou la relation impossible. Il suffit d'entendre le mot pour que la réalité qu'il désigne nous revienne avec force. Car la mémoire des violences subies est celle du cœur et du corps meurtri. Mémoire non pas intellectuelle mais viscérale. On l'oublie un petit peu trop souvent ça. Les mots méchants et les humiliations, les agressions physiques ou verbales font une seule plaie que les plus petits mots suffisent à rouvrir. Le participe présent que le mot « violence substantive » exprime cette emprise toujours actuelle. Aussi paraît-il violent d'évoquer la violence. Pourquoi donc se donner cette peine ? Parce que recouvrir la violence de silence et refuser absolument d'en parler, c'est encore faire son jeu. Nous avons des mots pour le pire, pour l'insulte et l'humiliation. Mais nous avons aussi les mots pour le dire, et par l'aveu, le pardon ou le dialogue, essayer d'en sortir. Alors, qu'est-ce que la violence au juste ? Je ne vois qu'une définition, il s'agit d'un rapport sans relation. Un rapport, exemple, une main qui claque sur la joue, un homme qui ignore le nom que la femme lui oppose, ce regard autant insistant qu'humiliant, mais sans la relation. Si la claque a pour but de réveiller physiquement ou moralement, elle n'est pas tout à fait violente. Elle vaut mieux que l'indifférence, qui, elle, est bel et bien une forme de violence, car la personne se tient là en rapport avec ma personne, mais ne réagit pas quand je lui parle ou crie vers elle. Être violent, c'est donc être en contact sans entrer en relation. D'où le fait que l'on parle de violence à propos des choses naturelles ou qui arrivent sans qu'on l'ait voulu. Un orage violent, un accident. D'où le fait aussi que la violence, dont le cours est libre, s'achève dans la mort. Elle crée un cadavre. Cette définition nous permet de circonscrire le champ de la violence sur un plan théorique, mais aussi pratique. Si nous mettons dans nos rapports même polémiques antagonistes de la relation, alors nous échappons à la violence. Le contraire de la violence n'est pas l'absence de rapports vifs, engagés, mais la présence au cœur de ceci d'une certaine qualité de relation. Je répète. Le contraire de la violence n'est pas l'absence de rapports vifs, engagés, mais la présence au cœur de ceux-ci d'une certaine qualité de relation. Le Christ, n'oublions pas, a eu des colères. Le contact est parfois rude entre ses disciples et lui. Mais l'enjeu est de toucher nos cœurs endurcis, d'ouvrir ses oreilles qui n'entendent plus. L'enjeu est de recréer entre l'homme et Dieu la relation rompue. C'est pourquoi Dieu, même quand il parle par des prophètes dont la virulence étonne, n'est pas violent. La vraie violence aurait été de se taire quand il voit l'homme se perdre. Donc quel serait alors le contraire absolu de la violence ? Notre définition nous l'indique, il suffit d'en inverser les termes. Mais c'est la vie du Christ qui nous le révèle, sa patience qui va jusqu'à la passion. Dieu se tient fidèle au seuil de notre cœur, à la porte de nos maisons, quoique nous l'ayons fermé à double tour. Il espère notre retour. Il suffit qu'à la façon du Fils prodigue, nous nous retournions pour que la relation soit renouée, d'autant plus forte qu'elle le sera par la grâce du pardon. Dieu nous a aimés en premier, avant que le contact soit établi. Il était en relation. Son amour est fou de nous. Jamais il n'est violent. C'était l'article de Martin Stephens paru dans le magazine Prier numéro 434 sur la violence, une relation impossible. Nous passons maintenant à la culture chrétienne. Je vais commencer par vous présenter le film Infidèle, donc qui est produit par Sage Distribution. Infidèle, sans E à la fin, est un thriller donc de Cyrus Nowasek. Avec Jim Caviezel, donc vous savez, c'est l'acteur qui avait joué le Christ dans La Passion du Christ de Mel Gibson. Voici une petite présentation de ce film. Chrétien américain n'hésitant pas à témoigner de sa foi sur son blog, Doug Rawlings se lie d'amitié avec Javid, un collègue musulman, espion iranien sous couverture. Alors même qu'il est impliqué par accident dans cette découverte, le blogueur persiste à se rendre à une conférence au Caire sur la religion, loin de se douter que l'enfer de la prison l'attend. Le film Infidèle, inspiré de faits réels, au rythme soutenu, porté par de bons acteurs principaux, et d'un grand réalisme, dans la représentation des jeux de pouvoir au Moyen-Orient, compense au primat de la torture dans le traitement des prisonniers ou à la compromission de la justice officielle avec les organisations terroristes. Ce film délivre une réflexion intelligente et juste sur ce qui est le témoignage de la foi. Aux antipodes de l'œcuménisme naïf qui pousse Doug à se lier d'amitié avec un prétendu musulman modéré, le véritable témoignage dans le film Infidèle est celui que donne le personnage sur un plateau télé égyptien, affirmant avec grand courage la différence essentielle entre l'islam et le christianisme. Même s'il est plus sensible dans le jeu de Jim Caviezel, on regrette que le cheminement intérieur du couple ne soit pas davantage exploré. Manifeste de la ferveur de ce noyau résistant, un beau rôle est donné à la communauté des chrétiens d'Iran, auxquels on aimerait pourtant que la dédicace rende hommage. Si vous ne savez pas quoi regarder en famille, vous pouvez prendre donc Infidèle, un thriller donc de Cyrus Norwastek, que sans doute Hubert de Torcy dans quelques instants vous présentera plus en détail. Je vous ai parlé tout à l'heure de Ansel Grumme sur la présence à soi et aux autres, et bien je me permets de vous présenter un de ses derniers livres paru aux éditions Salvatore, intitulé « Une petite pharmacie de la consolation ». De quoi parle le livre ? Tout simplement, nous vivons ces jours où les difficultés semblent s'enchaîner. Ces moments où nous sommes envahis par la solitude, la désolation sur nous-mêmes, la douleur ou la peur. Ces périodes où nos pensées tournent aux idées noires et où l'hypersensibilité domine nos vies. Cette petite pharmacie de la consolation nous invite à traverser les tempêtes de nos vies sans avoir peur de nous laisser réconforter au moment de tristesse ou de découragement. Je vous le conseille à titre personnel, c'est un livre dont les titres sont très concrets, je vous en donne par exemple quelques-uns. Quand je suis malade, si j'ai été offensée ou blessée, quand je me prends moi-même en pitié, quand je n'arrive pas à me pardonner. Voilà un petit peu le genre de chapitres qui vous attendent dans ce petit livre, Une petite pharmacie de la consolation. Je vous le recommande vivement, croyez-moi, la pluie s'arrête aussitôt. Je finis avec une très brève annonce du Congrès Mission. Vous êtes sans doute déjà au courant que les 1er, 2 et 3 octobre prochains, le Congrès Mission va se vivre dans 10 villes de France. Je vous donne les 10 villes et après, à vous de vite vous inscrire pour pouvoir participer à des ateliers, des tables rondes et des villages d'initiatives. Donc, il y aura un Congrès Mission à Marseille, Lyon, Besançon, Strasbourg, Orléans, Lille, Rennes, Toulouse, Fort-de-France et La Rochelle. N'hésitez pas maintenant à aller sur le site du Congrès Mission, donc c'est tout simplement www.congrèsmission.com. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à des ateliers et à rentrer en contact avec les coordinateurs de chaque ville. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du mardi 7 septembre 2021. Il est vrai qu'elle a été chargée, mais ne vous en faites pas, je vous redonne tous les titres d'actualité. J'ai commencé par vous parler de la communion Notre-Dame de l'Alliance, un mouvement qui accompagne les personnes divorcées ou séparées qui souhaitent rester fidèles à leur mariage. Je vous ai lu l'entretien que l'Homme Nouveau a effectué avec les modérateurs Emmanuel Rondeau et Marie Lagente. Vous pourrez retrouver cet entretien dans L'Homme Nouveau numéro 1741 et également aller sur le site tout simplement de la communion Notre-Dame de l'Alliance. Je vous ai ensuite parlé avec Ansel Grumme de la présence à soi et aux autres. À l'heure où la technologie remplace l'homme, à l'heure où il y a une assédie 2.0, que fait-on de notre présence à nous-mêmes, à Dieu et aux autres ? Donc c'était la présence à soi et aux autres de Ansel Grumme. Toujours dans le même magazine Prier, je vous ai lu ensuite l'article de Martin Stephens, un article assez bref, sur la violence ou la relation impossible. Martin Stephens nous redonne des définitions et nous donne des clés absolument simplement concrètes pour affronter et résoudre les violences que nous avons en nous et avec les autres. Culture chrétienne, je vous ai parlé de deux titres en particulier. Donc d'abord le film Infidèle, donc un thriller qui va être produit par Sage Distribution. Et ensuite, Petite pharmacie de la consolation, le dernier livre d'Ansel Grumme paru aux éditions Salvatore. Un livre qui fait beaucoup beaucoup de bien. Et je vous ai dit à l'instant les dates du congrès mission ainsi que les 10 villes pour que vous puissiez vous joindre à cette grande initiative missionnaire. Je vous laisse dans quelques instants en compagnie de Hubert de Torcy pour les films chrétiens. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie mardi prochain.